Radio Esperanza décolonise les ondes.
Radio Esperanza.
Et aujourd'hui sur Radio Esperanza, on accueille une partie des jeunes réalisatrices du podcast Le son qui dérange. Pendant une heure, on va vous parler des thématiques de cet atelier aussi, qui a un fonctionnement bien particulier, qui est un projet qui est initié par Oxfam Magazine du Monde et qui est porté aussi par une SBL qui s'appelle Comme un lundi. Mais on va surtout donner la parole aux jeunes qui se sont investis pour réaliser cette série de podcasts. On est quelques-uns, quelques-unes autour de la table. Je propose déjà de faire un petit tour de présentation. Alors, tout le monde n'a pas de micro parce qu'on est très nombreux. Donc, faudra refaire des présentations plus tard dans l'émission, mais ça, vous entendrez. Alors, il y a Diego. Bonjour, Diego.
Bonjour. Du coup, moi, c'est Diego. J'ai 17 ans et j'ai participé à la première édition du podcast en faisant un podcast sur la fast fashion.
Et on écoutera un extrait très, très bientôt de ce podcast. Bonjour, Diego.
Bonjour.
Kasi.
Bonjour, je suis Casimir, j'ai 14 ans et j'ai participé à la troisième émission de Radio Esperanza.
La troisième saison du podcast ?
Oui, du podcast.
Le son qui dérange. On mélange tous les Radio Esperanza, mm-hmm. Le son qui dérange. On écoutera d'ailleurs un extrait de ton épisode et tu as travaillé, je crois, avec Lucas qui est juste à côté de toi.
C'est ça.
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans et j'ai fait la troisième saison de Comme un lundi ouais, avec Casimir.
C'est... Tout un magma de noms qui sortent là. Alors, tu te présenteras plus tard parce que tu n'as pas encore de micro. Je te propose que toi, tu te présentes.
Bonjour, moi c'est Mia, j'ai 17 ans et j'ai participé à la première édition du Son qui dérange et j'ai fait un podcast sur les inégalités.
Excellent. Alors, il y a aussi Julie, donc c'est un magasin du monde autour de la table, mais qui n'a pas de micro. Tu peux crier très fort bonjour.
Je m'appelle Julie.
Diego. Quelques oui. mots sur un stage, le son qui dérange, comment ça se passe?
On prend toute la semaine pour faire un podcast du coup. Le premier jour, on est un peu sensibilisé à tous les sujets qu'on va évoquer. Et au final, par groupe, on choisit un sujet qu'on va traiter pendant toute la semaine pour s'occuper du podcast. On s'occupe de la musique, de l'écriture, on se renseigne. Et on essaie un peu aussi de trouver les ambiances. Tout ça quoi.
Vous êtes à chaque fois une dizaine de jeunes et vous êtes répartis en trois groupes.
Ouais.
C'est ça, trois groupes de trois ou quatre réalisateurs. Comment ça se passe d'écrire un podcast à trois ou à quatre?
Des fois c'est un peu compliqué parce que faut savoir se mettre d'accord avec tout le monde, un peu cerner les gens de son groupe parce qu'en général on les connaît pas et trouver les informations et ça des fois c'est un peu compliqué. Mais au final, ça se passe toujours bien. C'était une super expérience et on a passé un très bon moment.
Mia, c'est la première fois que tu faisais de la radio, du podcast.
Oui.
Et comment ça s'est passé pour toi?
Ça s'est très très bien passé. J'étais assez étonnée de vite apprendre parce que je pensais que c'était vraiment compliqué, mais en fait, pas tant que ça. Et voilà.
Parce que vous devez écrire, imaginer le fil rouge un peu. Mm-hmm. Est-ce que vous faites de la. Enfin, vous avez dû faire de la technique aussi, de la prise de son?
Ouais, on a un peu fait de prise de son au tout début, quand on est arrivé, d'ailleurs le premier jour, et c'était vraiment fun.
Vous vous connaissiez pas tous et toutes?
Non.
Donc quand on commence, on connaît pas tout le monde. Casimir, comment ça se passe la rencontre? Parce que c'est aussi une colonie, parce que c'est en. Faut bien préciser que c'est un stage où vous êtes en présentiel, c'est-à-dire vous dormez sur place et tout quoi.
Ouais.
Comment ça se passe ça, la rencontre, la découverte des autres?
On se met en groupe. Oui, on a plus ou moins le même âge, donc c'est cool qu'on puisse parler de la même chose en le vivant.
Et le soir, quand le travail ouais. s'arrête, parce que c'est quand même assez intense, on commence vers 9h30, on doit quand même pas mal bosser, vous avez même des petits ateliers de réflexion, d'initiation, vous faites pas que de la technique et de l'écriture de podcast, vous avez aussi des moments d'initiation, vous suivez un peu des petites animations. Le soir, qu'est-ce qui se passe?
Le soir, on fait des activités, par exemple faire du bowling et tout ça, ensemble. Et puis, on mange à la cantine.
Est-ce qu'il y a des problèmes d'autorité, par exemple, de la part des animatrices d'Oxfam Magasin du Monde? Est-ce que parfois, elles doivent un peu se fâcher?
Oui, pour
ceux qui vont se baigner dans le lac, par exemple.
Voilà.
Petite dédicace à Milo. Nous racontera ton aventure. Mais Diego, je propose qu'on écoute un extrait du premier épisode, du tout premier épisode du Son qui dérange, ouais, sur la fast fashion. Et juste après ça, on donnera la parole à notre invité du jour. Voilà, je propose qu'on écoute fast fashion, là, un extrait.
Vous entendez ces bruits ? On est dans l'usine Rano Plaza au Bangladesh. Des milliers de travailleurs y sont exploités. Les conditions de travail sont déplorables. Salaire insignifiant, heures supplémentaires non payées, équipement de sécurité insuffisant, intoxication aux produits chimiques, interaction entre travailleurs et syndicats interdites, et encore bien d'autres atrocités. Dans une région industrielle en Chine, en moyenne, 3 personnes se suicident par mois, soit 35 personnes par an. Tout ça pour un simple pull gris. Vous écoutez le son qui dérange.
Je suis Denis Clérin, je travaille pour l'association HACT qui défend le droit des travailleuses de l'habillement. Les conditions de travail dans les circuits de la fast fashion, en général, c'est des conditions où la sécurité est compliquée, les salaires sont excessivement bas et les droits du travail ne sont pas respectés. Alors le problème de base, c'est que les travailleuses, parce que c'est 85% des personnes, ce sont des femmes, n'arrivent pas à vivre décemment. Pouvoir manger, pouvoir payer son loyer, ses vêtements, l'école des enfants. On voit que en travaillant à peu près 6 jours semaine, ils ne parviennent pas, avec le salaire qu'ils reçoivent, d'avoir une vie décente. Derrière ça, souvent aussi, c'est que pour obtenir des salaires plus hauts ou plus de sécurité, grâce à un syndicat, généralement, ben, on permet d'avoir des meilleures conditions. Or, il y a pression qui sont faites sur les syndicats pour qu'il n'y ait pas de syndicat dans l'entreprise. Et avoir un syndicat, c'est d'avoir une voix collective. Parce qu'un travailleur ne peut pas se défendre tout seul, ben, sinon il risque sa peau. Et ça, c'est un problème, c'est que la liberté d'association n'est pas assurée, même si elle est inscrite dans la plupart des pays. En général, elle n'est pas assurée sur le terrain.
Ça me met mal, parce que je vois de loin dans des documentaires, dans des reportages et tout, que les gens sont maltraités, les gens travaillent mal, la pollution que ça engendre, et les profits que font... les grandes entreprises sur ça, et je trouve ça dégueulasse.
Je trouve ça aberrant. C'est n'importe quoi. On n'a pas besoin d'autant de vêtements, ni d'autant d'exploitation. Ce système m'a rendu un peu flou au début, parce que c'était compliqué à comprendre et à aborder, parce que on n'en a pas vraiment conscience. Quand on regarde autour de nous, dans la rue, dans les gens, on voit pas d'ouvriers au Bangladesh. Donc on a du mal à se dire que ça existe et que c'est présent sur la Terre. Notre pull est maintenant sur un cargo porte-conteneur en direction de la Belgique. Il y sera embarqué dans un camion qui le conduira dans notre magasin de fast fashion préféré.
Radio Esperanza.
Donc, nous voici avec notre invité. Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, bonjour, je m'appelle Asia Kara. Je suis créatrice de vêtements, pas dans la fast fashion du tout.
Et quelle est ta réaction à chaud sur ce que tu as entendu ?
Bien sûr, comme tout ce qui a été dit dans ce petit extrait de podcast, je suis assez d'accord du drame que c'est. Je pense qu'on n'en a pas assez conscience. J'ai beaucoup aimé la phrase « on ne voit pas les travailleurs au Bangladesh tous les jours et donc on ne s'en rend pas compte ». pour moi, c'est ça le gros souci, c'est que tout ça est caché et donc c'est facile d'oublier. Et c'est facile de se dire que finalement, c'est pas mon petit achat qui va changer quelque chose, alors que si.
Et qu'est-ce que tu fais en fait ?
Alors moi concrètement, je design les vêtements, je les imagine, je les dessine, je fais les patrons, je fais la découpe, la couture, l'emballage, j'envoie parfois même, je donne en main propre les vêtements à mes clients, donc vraiment tout est fait de A à Z. La partie qui n'est pas faite par moi, bah, c'est transformer du coton par exemple en tissu. Et donc rien que ça, il y a déjà toute une industrie qui est hyper problématique à ce niveau-là, plutôt au niveau environnemental, de toutes les étapes pour construire du tissu, mais en tout cas entre le moment du tissu et le moment où la personne veut porter le vêtement, et bah, tout est fait par moi. Et c'est fait sur mesure, comme ça, pareil, pour lutter contre la fast fashion, pas de surproduction, pas d'énormes stocks qui finissent, on ne sait pas trop où, mais vraiment, chaque vêtement qui est fait, il est porté par la personne.
C'est génial.
Est-ce qu'on n'est pas... comment on se sent par rapport justement à la puissance de ces grandes marques, de ces grandes industries ? C'est pas un peu écrasant ?
Alors oui, c'est hyper écrasant, et notamment parce que en fait, en tant que petite marque, on doit redoubler d'efforts pour être vu en termes de publicité. En fait, on a parfois l'impression qu'il faut jouer leur jeu, et en même temps, on sait qu'on sera jamais aussi fort qu'eux parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Il faut faire plein de photos tout le temps, il faut être présent dans des événements, il faut se faire connaître, et en même temps, pas du tout avec la même force de frappe. Et donc, à chaque fois que ici, par exemple, je suis en train de vendre mes créations sur Esperanza, à chaque fois que je croise des personnes, ils sont là genre, oh, tiens, on savait pas que ça existait et tout. Et c'est dommage parce que c'est difficile de se montrer. Alors qu'il y a des énormes marques, bah, tout le monde sait qu'elles existent. Et donc forcément, on n'est voilà, on n'est pas sur un pied d'égalité.
On est sur quel type de vêtements que tu fais alors ?
Alors moi, mes créations, le studio, si vous voulez passer, regarder ma robe, c'est une robe qui est non genrée, puisque c'est juste une robe, quoi. Et en fait, un de mes combats aussi, c'est de dire que n'importe qui peut porter n'importe quel vêtement, et que donc cette robe, pour quelle que soit ta morphologie, quel que soit ton corps, quel que soit ton genre, je peux la réaliser à ta taille. Et c'est en général très coloré, comme vous le verrez si vous passez au stand de Radio Esperanza.
Alors Mia, tu as 3 secondes pour trouver une question.
C'est pas un peu parfois compliqué de trouver une clientèle du coup
Si, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, donc c'est beaucoup de boulot. Mais en même temps, c'est aussi une manière de... on trouve des manières détournées de trouver une clientèle. Moi, j'aime beaucoup passer du temps avec les gens, discuter avec eux. Forcément, il y a une intimité qui se crée parce qu'on m'envoie les mesures et donc du coup, je fais des essayages et tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment une relation particulière qui se crée, donc c'est plus compliqué. On a clairement moins de clients que des méga grosses marques, mais je trouve que la qualité de la clientèle n'a rien à voir. C'est pas des gens qui achètent parce que oh tiens, c'était joli, et puis qui vont jamais le mettre ou qui vont le jeter. C'est vraiment des personnes qui vont s'intéresser à la marque, s'intéresser aux vêtements, au processus, et donc qui sont a priori acquis pour une plus longue période.
Ok, et où est-ce qu'on pourrait te trouver alors sur les réseaux
Ouais, moi donc je vends à part à Esperanza comme aujourd'hui, mais sinon de manière générale je vends quasiment uniquement en ligne. Et donc sur mon site asiakara.com ou sur mes réseaux, sur mon Insta asiakara, ou je suis aussi sur les autres réseaux genre Mastodon et Blue Sky et tout ça, mais je n'ai pas encore beaucoup de following. Mais donc voilà, vous pouvez me retrouver asiakara, c'est A2SIAKARA.
Et là, comment tu fixes un prix ?
Ah, énorme question,
oui.
Mais super intéressante. Moi, j'essaie toujours de trouver un équilibre entre que moi, je m'y retrouve, mais en même temps que ça soit abordable pour quelqu'un. Donc, faire un t-shirt à 5€, c'est juste pas possible pour que je m'y retrouve. Faire un t-shirt à 80€, c'est un peu compliqué pour que les personnes puissent l'acheter. Donc, j'essaie de travailler la manière dont je crée un vêtement pour que ça me prenne moins de temps à faire et que donc ça revienne moins cher. Donc, en gros, mes prix situent entre un vêtement assez simple, un petit t-shirt ou quoi, on va être plutôt sur 49-50€, et un vêtement plus complexe, genre salopette, donc c'est mes vêtements les plus chers, ils sont à 135€. Et il y a de tout dans cette fourchette-là, mais ça reste quand même vachement plus bas que des marques de luxe et compagnie. Et en fait, quand on compare avec de la fast fashion, il y a énormément de trucs de fast fashion qui en fait coûtent pas si peu cher que ça.
En plus, une salopette à 135€, j'imagine que tu la gardes.
Et elle est faite sur mesure, donc déjà, tu es sûr qu'elle va t'aller. C'est quand même des matières de qualité. Ça, C'est... Et puis, il y a le côté où, en fait, quand tu as réfléchi à ton achat, que tu as vraiment pris le temps, peut-être tu as un peu économisé pour l'acheter, a priori, c'est un vêtement qui te plaît vraiment. C'est pas juste un truc où tu t'es fait avoir par une pub et tu as acheté puis tu regrettes. Voilà.
Diego, très vite, qu'est-ce que ça a pu modifier éventuellement d'avoir réalisé ce podcast sur cette thématique-là, ou qu'est-ce que ça a fait bouger chez toi ?
Bah, déjà, je consomme presque plus en fast fashion. Bah, voire même plus du tout, en fait.
À part les slips, tu me disais.
Ouais, bah, les slips, des fois, j'ai pas le choix. Mais sinon, tout ce que j'achète, c'est de la seconde main, sur Vinted, en friperie. Enfin, j'essaye d'aller un peu partout, de trouver mes vêtements en seconde main. Et puis après, s'ils me plaisent pas, si j'aime pas comment ils vont, bah, je découpe dedans. Et c'est tout de suite mieux, quoi. Plutôt que d'acheter un truc à 50 balles et qui taille mal.
Vous nous écoutez sur Radio Esperanza, peut-être même sur Run, peut-être même dans le sud de la France. Et c'est incroyable tout ça. Et on est à Esperanza, on est sur le festival. Et donc, Diego, Mia et toute l'équipe, on est allé à la rencontre des festivaliers pour leur poser une question autour, plusieurs questions même autour de la fast fashion. On écoute ça, un petit quiz.
Radio Esperanza.
Combien de litres d'eau sont nécessaires pour produire un jean en coton ?
Je dirais genre 100 litres.
Alors on a des choix.
Ah, on a des choix.
Ah. On a des choix. Ok, donc 1500, 2 2500, C 5500 et D 7500.
Bah 5500 alors. C'est ça ? 100 litres.
On va dire la moitié là, le 2.
Oui. 2500 ?
Bah c'est 7500.
Waouh.
Juste pour un jean.
Waouh. Je savais que c'était beaucoup mais jamais m'excitait autant. Voilà.
On a une deuxième question.
Ouais.
Vas-y. Quel pourcentage de vêtements sont produits chaque année mais qui ne sont pas vendus ? Donc 1%, 10%, 30% ou 50%.
Tu as 30%. 50 ou 30, non ? Mmh. 50 ou 30 ? Eh ben c'est 30. Et une dernière question, c'est quelle est la durée moyenne d'utilisation d'un vêtement dans la fast fashion ? Un an ? 3 mois, 5 ans ou 10 ans.
La fast fashion.
Un an ? 3 mois. Et ça vous fait quoi d'entendre ça ?
C'est interpellant. On n'imagine pas qu'il faut autant d'eau pour le jean. Ouais. C'est fou, ça.
Et vous changez souvent de vêtements ? Vous l'achetez souvent ?
Ça dépend.
Quand même, ouais.
Ouais.
Ça dépend des périodes, oui. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.
Radio Esperanza.
Et pendant une heure, on parle du podcast Le son qui dérange, qui a été réalisé par des jeunes qui sont ici autour de la table. Mia, toi, tu avais réalisé une... C'était quoi la thématique de ton épisode à toi ?
Alors moi, c'était sur les inégalités, plus particulièrement les inégalités policières.
Et je crois que tu l'as réalisé avec quelqu'un d'autre qui est autour de la table.
Oui, avec...
Est-ce qu'on peut peut-être lui passer le casque ? Ah oui. Alors, qui es-tu ?
Moi, je m'appelle Anaël et j'ai 18 ans.
Et donc, pour poursuivre ce que Mia disait, vous avez réalisé ensemble un épisode sur quoi ?
Sur les inégalités sociales avec, aussi le changement climatique.
Alors, pour comprendre un peu de quoi il s'agit, je propose qu'on écoute un extrait de ça, donc l'extrait sur les inégalités.
Lequel ? Elle ne sait pas. On lui a pris son téléphone. En fait, on lui a tout pris. Sa pommette lui fait mal. Son bras est couvert de bleu. Son dos est en feu. En cet instant, la douleur physique n'est rien comparée à sa rage. La lutte pour le climat semble bien loin.
Comment est-ce que vous protégez les personnes en minorité dans les manifestations ?
Il faut, je pense que pour répondre à ça, déjà, il faut parler des risques, en fait.
Nicolas Descamps, de l'association ATD Carmonde.
Les risques, c'est que ce sont des personnes qui sont parfois pour lesquelles c'est compliqué de se déplacer, qui ensuite, s'ils sont arrêtés ou fichés, par exemple, par la police, ça devient aussi un énorme problème et ça leur crée encore plus d'obstacles pour le quotidien. Donc ça, c'est vraiment des risques auxquels on doit faire vraiment très attention. Pareil pour des personnes qui se portent bénévoles, des personnes en situation de précarité qui se portent bénévoles pour une action, pour participer par exemple à un stand pendant un festival. Eh bien, ça peut aussi être dangereux parce que être bénévole quand on est CPAS, eh bien, ça peut parfois mettre en danger les allocations sociales qu'on reçoit. Donc tout ça, c'est un ensemble de risques auxquels on doit faire très attention. Et la première chose par rapport à ça, eh bien, c'est de garantir l'anonymat des personnes pour pas que le fait qu'ils prennent la parole se retourne contre elles. Et en fait, on essaie toujours que les gens parlent pas en leur nom, mais parlent au nom des personnes en situation de précarité de manière générale. Ensuite, les personnes sont jamais laissées seules. On fait toujours groupe, en fait, et on essaie de les accompagner pour que il y ait toujours des gens qui puissent s'assurer de trouver une solution et de protéger les gens qui doivent l'être en cas de problème.
Le son qui dérange.
Alors,
Radio Esperanza.
Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit exactement dans ce podcast. C'est assez abstrait. C'était une histoire que vous vouliez raconter, vous ?
Oui, donc on avait imaginé l'histoire d'une jeune fille qui est métisse,
ouais.
Et qui allait en manifestation et qui s'est fait arrêter par la police. Et donc suite à ça, elle a eu des coups et blessures infligés par les policiers qui l'ont arrêtée. Et voilà, ça regroupe plusieurs thématiques en soi, le réchauffement climatique, les inégalités policières et sociales. Et voilà.
C'est-à-dire que même quand on est militant, il y a des inégalités dans ça.
Oui.
C'est quelque chose que vous avez expérimenté ou...
Moi, pas personnellement. En vrai, j'ai pas vécu la même histoire que la fille dans le podcast qu'on a fait. Mais on voit souvent ça sur les réseaux et dans des témoignages, etc.
Ça permet quoi de passer par le son pour raconter ces histoires-là, Mia ?
Ça permet au fait que les gens se rendent plus compte de ça. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, on ne s'en rend pas forcément compte. On pense qu'on est militant, on va tous aller militer, etc. Mais même au sein de ça, il peut y avoir des inégalités, on ne s'en rend pas compte, quoi.
Oui, parce que votre invité le dit, c'est que même... aller manifester quand on n'a pas de papier, c'est dangereux. Donc même quand on veut s'engager, parfois c'est compliqué. Et j'ai l'impression en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais qu'on va aller vers de plus en plus de contrôle. Vous êtes un peu au courant de l'ambiance générale de...
Oui, l'ambiance générale mondiale en vrai. Partout dans le monde, c'est un peu ça.
C'est vrai qu'en 2 ans, il s'est passé plein de choses. Vous, c'était il y a 2 ans que vous l'avez réalisé. Ouais. Est-ce qu'il s'est passé dans le monde depuis 2 ans?
C'est oui, aberrant.
Tellement de choses.
Ça fait peur.
On va écouter votre choix musical. C'était quoi ?
C'était The Spin de Mac Miller.
Allez,
on y va. Et on va écouter ça.
Dope shit like that, Jerm. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things. The kids they call the goonies. I see the future, crystal ball, mirror, mirror hanging on the wall. Who the flies, white boy of the mall? Got your girlfriend screening all the calls. She bubbling, we fucking and you cuddling. Like baby, where the fuck you been? I wanna tell you she in love with him. So we ain't saying nothing. You could probably tell she bluffing, 'cause she kissed you with the mouth. She gave me that with my. Yeah, she blushing, all red. Wanna rush and go to bed. You interrogate that bitch like you the feds. So she says she in love with a rock star. Rock star, wanna smoke my weed. So she asked me where the tops are. Tops are.
Oh,
top draw.
Oh, 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 hey, buddy.
smoke this blunt, then let me take them home and do anything I want. I said, baby, I can ride ya, just let me get inside ya. I can take you higher if you hit this vaporizer. I got that dope dick, I'll be your supplier. You grabbing all my sheets and hitting notes like you Mariah. Obsessed with me, undress a freak on ecstasy. I'm out and then she texting me like, what you doing next?
Radio Esperanza.
Et ouais, vous écoutez Radio Esperanza, vous écoutez aussi Run, vous écoutez la radio dans le sud de la France, vous nous écoutez dans le monde entier sur internet, tout ça, enfin, c'est formidable. Et on parle pendant une heure du son qui dérange, on continue à parler de ce podcast qui est réalisé par des jeunes qui ont entre 14 et 20 ans en général. On a beaucoup parlé de la saison 1 qui parlait donc de la justice climatique. On a abordé la justice climatique. Il faut savoir que ce podcast, il est encadré par des animateurs et des animatrices de Oxfam Magasin du Monde. Et pour la saison 3, qui vient d'être réalisée et qui n'est pas encore en ligne, on a abordé... Alors là, la scène commence, là, ouais, il y a des basses et tout, c'est formidable, on est vraiment... On a abordé la thématique de l'artisanat avec ce prisme féministe qui est de questionner un peu la place de la femme dans l'artisanat, que ce soit en Belgique ou ailleurs dans le monde. Et avec nous, on a trois réalisateurs. On a Milo, qui n'a pas encore parlé. Bonjour Milo.
Bonjour.
Comment ça va ?
Bon, ça va bien.
Est-ce que tu peux nous expliquer pour cette saison 3 comment ça s'est passé ? Comment est-ce que, d'abord, vous avez choisi un peu les groupes ? Il y avait un truc un peu particulier cette année.
Alors, il y avait des mots sur les tables et on devait se poser sur les tables,
ouais,
pour choisir de... quel sujet on avait parlé.
Est-ce que tu te souviens un peu de ces mots ?
Alors, il y avait argent, terre et laine.
Et tu savais, toi, tu t'imaginais à quoi ça allait se rattacher ou pas du tout ?
Alors, moi, un petit peu. Mais vite, j'étais dans le groupe argent, pas du tout.
Et toi, t'as choisi l'argent, quoi ?
Ouais.
Ouais.
Parce que je m'étais fait des amis et ils avaient pris le groupe argent.
Le groupe argent.
Ouais.
Et donc, en fait, et vous, alors, parce qu'il y a Lucas et Casimir, vous aviez choisi quoi comme mot ?
On avait pris la terre.
La terre. Et du coup, ça vous a amené à réaliser quoi ? À traiter quel sujet en choisissant la terre ?
La poterie, donc l'artisanat autour de la poterie.
Très bien. Et vous, l'argent, c'était quoi, du coup ?
C'était les bijoux en argent.
Bijoux en argent. La particularité, c'est que, pour cette saison-ci, c'est qu'on vous a mis en action. C'est-à-dire que vous êtes allé quasiment expérimenter l'artisanat. Et pour toi, Milo, on va écouter l'extrait où justement vous rencontrez une artisane donc c'est l'extrait argent. Vous allez rencontrer une artisane d'ici, de pas très loin d'ici d'ailleurs, et vous allez découvrir un peu le milieu de l'artisanat. On écoute ça.
Radio Esperanza.
Des leçons qui dérangent.
Et aujourd'hui, on vous parle de discrimination.
Alors,
on s'est rendu à l'atelier Taoé. On y a rencontré Manon.
Voilà, on va donner notre forme de soudure à la bague. Comment est-ce qu'on fait ? On prend deux pinces, l'une, comme ça. Donc il y en a une qui est... vous voyez, de ma pince, il y a un côté qui est plat et l'autre côté qui est courbé. Le courbé va servir à donner la courbe de la bague.
À la base, je suis artisane de création de bijoux en cuir. Donc, j'ai appris à travailler le cuir par moi-même et ça fait déjà 4 ans. Et j'avais très envie d'apprendre le travail de l'argent. Sauf que, ben voilà, j'ai déjà 30 ans, j'ai un travail à 4/5e et donc, j'avais pas l'opportunité de reprendre des études en bijouterie. Et donc, je me suis dit que c'était pas mal d'apprendre à travailler l'argent. C'était vraiment un complément à mon travail qui n'est pas du tout manuel, qui est plutôt engagé. Et donc voilà, c'est pour ça que je travaille chez Taoué.
Comment définissiez-vous l'artisanat ?
Ah, l'artisanat. Je sais pas, je pense que c'est un ensemble de techniques, de savoir-faire ancestral ou pas, ancestral ou innovant, donc des techniques qui permettent de faire un produit. En fait, c'est presque historique. À l'origine, les humains font les choses dont ils ont besoin, des chaises, je sais pas, des tabourets, etc. Et à la base, on les faisait à la main, on les vendait, et voilà, c'était soit des échanges, soit c'était. Je pense que c'est un peu la base de l'économie humaine. C'est un des le premier métier de l'humanité, quoi. C'est l'artisanat pour créer les choses du quotidien dont nous avons besoin.
Là, on émerise avec une brossette bleue, toujours bleue, pour faire briller la bague. C'est une première expérience pour moi. Ça me plaît beaucoup. C'est intéressant.
Pourquoi est-ce que aujourd'hui j'en vis pas? Mais parce que économiquement, c'était précaire. Et je pense quand même que la situation des femmes, si elles ne sont pas entourées, si elles n'ont pas un ressource capital à la base, c'est un peu, ça fait peur en tant que femme de se lancer. Par exemple, là, je vais parler d'expérience. Mon compagnon, qui s'appelle Nils, lui, il a eu aucun problème de se lancer. Il a créé une ASBL d'animation d'enfants. Et donc, lors de ces animations, il propose des stages de création d'objets en cuir. Donc, très proche de ce que moi, je fais finalement. La différence, c'est que lui, Nils, il a créé son ASBL. Ça a pris 3 ans. Et il a pas douté de lui-même. Il n'a pas été rémunéré pendant au moins 3 ans. Et il en vit aujourd'hui. Mais parce que il a pris ses 3 années pour investir tout ce qu'il avait dans son bébé qui est son ASBL. Mais la différence avec moi, c'est quoi? Bah, finalement, moi, on m'a éduquée en tant que fille. Moi, on m'a toujours répété qu'en fait, il fallait faire de hautes études pour avoir un bon salaire et pour vivre correctement. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. Une petite fille, on lui dit pas, vas-y, lance-toi dans le bain, c'est pas grave si t'en vis pas, tu survivras bien. Non, j'ai l'impression quand même que culturellement, il y a certains freins.
Radio Esperanza.
Extrait donc du podcast Le son qui dérange, la 3e saison. Ce sera le premier épisode, celui sur le thème de l'argent, enfin, en tout cas l'artisanat autour de la fabrication de bijoux. C'est pas encore en ligne, ce sera en ligne en septembre. Je suis encore en train de monter le truc, je suis désolé. Je prends du retard, Milo, je suis un peu en retard. Peut-être j'ai envie d'entendre une réaction, parce qu'ici autour de la table on a des femmes, des filles, des mecs. Est-ce que vous êtes OK, enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre sur cette différence d'éducation qu'on peut avoir?
Oui, moi je suis assez d'accord. Je trouve que ça se ressent bien.
Ouais. On éduque parfois les garçons en leur disant ouais, vas-y, fais ce que tu vas y arriver. Et les filles, il faut vraiment être.
Ouais, c'est sûr que les filles, on a tendance à toujours dire il faut que t'aies déjà tes choix qui soient faits, etc. Alors que les hommes, on leur dit ça ira, quoi. Enfin.
Et est-ce que tu luttes, toi, contre ça, Mia? Est-ce que tu fais ce que tu veux?
Moi, oui, je fais ce que je veux, bien sûr. Parce que, voilà, il faut.
Zanaï.
Ben oui, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Et dès le plus jeune âge, dans certaines familles, on peut observer une différence d'éducation, etc. Et voilà.
Alors, Milo, la fabrication d'une bague, comment ça se passe?
Alors, d'abord, on prend un fil de fer qu'on assemble avec de la soudure. Et après, on lui donne une forme de bague en tapant dessus avec un marteau et un rond. Je sais pas comment on appelle ça.
On émerise.
Voilà, on polie la bague, on lui donne les motifs qu'on désire. Et voilà.
Et après, sur ce qu'elle vous dit au micro, sur cette inégalité qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes dans l'éducation, dans la confiance qu'on a pour se lancer dans un projet, comment toi tu réagis à ça?
Alors moi, vu que je suis pas une femme, j'ai pas eu toute cette éducation là. Enfin, j'ai pas eu toute cette.
Tu pourrais avoir aussi reçu une éducation, on te dit non.
Exactement. Non, moi j'ai eu une éducation en me disant si tu veux faire quelque chose, lance-toi à fond et tu peux y arriver si tu veux.
dans votre parcours de réalisation, donc vous rencontrez une artisane belge ici à l'atelier Tao, mais vous êtes aussi allé à la rencontre d'une autre artisane qui venait de... C'était l'artisane du Pérou, je pense.
Non.
Non, c'était vous avez rencontré qui, vous, alors? Ah oui. Alors, j'ai Julie de Oxfam qui me dit si. C'était au Pérou. Ouais. Et peut-être t'étais pas là ce jour-là, Milo, quand vous avez fait l'interview des personnes au Pérou.
Moi, j'avais fait l'interview avec la poterie.
Toi, t'avais pas fait la poterie, Milo.
Moi, j'étais allé avec la poterie.
Ah ouais?
Bien sûr.
Pourquoi?
Parce qu'il fallait deux groupes et j'étais allé avec la poterie.
Pour faire l'interview.
Exactement.
Qu'on va entendre plus tard. Bon, ok. Il y a peut-être eu un switch. Bonsoir. Ouais. Mais alors bah du coup on va passer à ce groupe là, on va penser à votre groupe à vous Lucas et Casimir. Alors vous avez donc le groupe, vous étiez le groupe Terre. Vous avez donc exploré la poterie. Racontez un peu le parcours. Vous êtes allé où?
En fait au départ on a interrogé une personne qui vivait en Palestine, qui faisait de la poterie, qui était chef d'un groupe. Et puis, vers la fin, on a été dans un atelier de poterie à Waterloo pour l'interroger, tout ça, pour savoir comment il fallait faire un bol, une tasse, pour ça.
Et ça, vous l'avez testé, vous?
Non, ça, malheureusement, on n'a pas fait.
Elle vous a montré?
Ouais, elle nous avait montré, mais on ne l'a pas fait parce qu'elle n'avait pas trop le temps.
Alors moi, je propose, si vous voulez bien... qu'on écoute cet extrait où vous rencontrez, par téléphone, une artisane en Palestine. Donc c'est l'extrait de Terre qu'on va passer maintenant.
On s'est dit que ce serait intéressant de discuter de l'artisanat avec des femmes d'autres pays. On a eu envie de contacter Suzanne en Palestine.
Yes, can you hear me?
Suzanne est une des femmes qui a fondé BFTA, qui est le Bethlehem Fair Trade Association.
Ok, great.
Okay, so our first question is, why did you create this foundation?
I started this organization after working 6 years with the mayor of Beit Sahour as his public relations.
Elle nous a expliqué que BFTA est une ONG qui vise à développer le commerce équitable de l'artisanat en Palestine.
In Palestine, each city in the country has its specialty.
On a découvert qu'en Palestine, chaque ville et village a sa spécialité en termes d'artisanat. À Bethléem et à Hébron, la région dans laquelle Suzanne travaille, c'est la céramique. Les artisans et les artisanes créent des objets à partir d'argile qui vient d'Italie. Il n'y a pas de fabrication d'argile directement en Palestine. Le gouvernement n'investit pas là-dedans.
Very challenging times we are living in. Very challenging.
Ce que Suzanne nous a expliqué, c'est que les artisans et les artisanes n'arrivent plus à vendre leurs produits puisqu'il n'y a plus de tourisme en Palestine à cause de la guerre.
On a appris que les hommes et les femmes travaillent ensemble.
Les women are more talented. Women do the painting.
Les hommes fabriquent l'objet et les femmes font plutôt la peinture, la décoration. Dans les villes 100% musulmanes, les hommes travaillent dans une pièce séparée des femmes. Suzanne nous a expliqué que la société évoluait, qu'il y a quelques années, les femmes ne pouvaient même pas montrer leur visage. Aujourd'hui, les mentalités évoluent et les femmes ont le même salaire que les hommes.
On a aussi appris qu'en Palestine, l'artisanat est souvent une affaire de famille, une pratique qui se passe de génération en génération.
Thank God, you know, I'm still alive, I'm fine, I can go to work, and this is what gives us...
Elle garde sa passion même si s'il y a un conflit dans son pays et... chaque matin, elle se lève, elle se dit « Je suis toujours en vie, donc je peux toujours continuer mon travail. »
We must continue doing, despite the crisis, despite the challenges.
Okay.
Thank you.
Thank you very much.
Thank you.
Bye.
C'est une rencontre qui était assez émouvante.
Auditeur, auditrice. On vous invite à plonger vos mains dans la terre.
D'en retirer un petit bloc et de le poser sur un tour de poterie. Ensemble, que diriez-vous?
De faire de ce petit tas de terre un monde qui tournerait plus rond.
Un monde plus juste.
Où hommes et femmes auraient les mêmes droits. Un monde qu'on confectionnerait ensemble, avec ses fêlures, mais un monde plus beau. Un monde dans lequel chacun pourrait travailler et montrer ses talents. À un monde fait de nos mains, fragiles et puissants.
Radio Esperanza.
Ah, c'est beau, Casimir, ce que tu as écrit.
Merci.
C'est très beau. Faire un monde plus beau avec de l'argile, pourquoi pas. C'est la première fois que tu entends un extrait, puisque le podcast n'a pas encore été publié. C'est quoi ta réaction?
Je trouve que c'est bien fait en termes de continuité. Donc, on explique bien chose après chose. Et
toi, Lucas, qu'est-ce que t'en penses?
Franchement, c'est bien fait. On sent qu'il n'y a pas de coupure. C'est vraiment...
Ça va, c'est bien
c'est
monté.
Lisse. C'est lisse.
Ouais.
Les réalisateurs sont contents, sont satisfaits du
ouais.
résultat.
Ouais.
C'est ça.
Mais bon, c'est un
extrait. C'est pas encore fini.
C'est pas encore fini. C'est un extrait. Faut le terminer. Lucas, je vais proposer de que tu nous dises c'est quoi ton choix musical.
Bah moi c'est Mektoum de Souf.
On va écouter ça.
Radio Esperanza.
Donc, pour aller encore plus loin sur le sujet des femmes et l'artisanat, on va écouter un petit quiz. On a été interrogé des gens dans Esperanza en parlant de ça. On peut lancer le quiz.
Je vais vous demander quelques questions en rapport avec l'artisanat.
Ok.
Première question. Quel est le pourcentage de femmes artisanes parmi les organisations partenaires d'Oxfam Magasin du Monde? Donc c'est une question type de plusieurs réponses.
Ouais.
Donc 70%, 80%, 90% ou 100%.
80%.
J'allais dire pareil.
C'était bien la bonne réponse, 80%. Alors. Et deuxième question. En Belgique, quel est le pourcentage de femmes artisanes? 11%. 21%, 31% ou 41%?
Je dirais 41, mais je ne sais pas. J'ai
31.
Pas lu la suite. 41.
Elles
disent 41, moi je dis
31.
C'est
41%.
Bravo.
C'est parce que je suis pas
une
femme.
C'était juste... Et dernière question, quel est le pourcentage de femmes parmi les bénévoles d'Oxfam Magasin du Monde? 70%, 80%, 90% ou 100%?
Ah, je dirais 90%.
Ouais, c'est ça.
C'est merci. Toujours des nanas...
Merci beaucoup.
Bah, bon courage pour la suite. Bravo.
Merci.
Merci.
Radio Esperanza.
Notre podcast, enfin notre émission va toucher à sa fin et pour terminer, je vais demander un peu qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette semaine de stage pour ce podcast, Mia.
Moi, ce qui m'a le plus marqué, ça a vraiment été le fait qu'on ait réalisé ça de A à Z. C'est nous, quoi. C'est nos idées, c'est ce qu'on en pense. Et le fait qu'on se soit bien entendu aussi avec les gens, c'était vraiment bien.
Super. Anaëlle.
Moi déjà c'est les rencontres qu'on a fait, etc. C'était trop bien, une bonne semaine avec des activités plus les podcasts, c'était trop cool à réaliser et tout, et on a appris plusieurs choses en interviewant les gens, et du coup voilà, c'était trop bien.
Super. Et Lucas?
Franchement moi j'ai aimé, cette semaine était cool, on a appris beaucoup de choses, on a parlé avec beaucoup de gens et c'était du kiff.
C'est génial, c'était du kiff. Casimir,
moi j'ai bien aimé les interviews à travers le monde, découvrir un peu la culture là. Et j'ai bien aussi aimé les activités en fin de soirée, j'ai trouvé ça cool.
Emilio, toi tu retiens quoi de cette semaine?
Alors moi j'ai adoré vraiment cette semaine. Les activités étaient super chouettes, le sujet de discussion aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas, que je revois encore maintenant et c'était vraiment chouette.
Bah, c'est génial. Moi aussi, je vais te dire, qu'est-ce que j'ai retenu de cette semaine? Beaucoup de rencontres, des gens exceptionnels, des valeurs superbes. Et avoir fait un projet de A à Z qui a enfin une finalité, avoir un vrai produit, c'est un truc qui fait vraiment chaud au cœur. On se dit qu'on a contribué à quelque chose et que peut-être on va continuer avec une saison 4. On pourrait peut-être aller plus loin. Je sais pas, ça vous dirait de lancer une saison 4?
Ouais. Allez, ouais. Pourquoi pas, soyons fous.
On peut y aller? Bon, ça va être la fin de notre petite émission. Et moi, je vais aller avec mon choix musical à moi. Sugar on My Tongue de Tyler, the Creator. Non, pas encore.
Alors, pendant qu'on cherche ce morceau-là, Diego, on va dire merci. Peut-être je vais donner la parole à Julie d'Oxfam Magasin du Monde, qui est quand même à l'initiation du projet. Voilà, petit passage de micro à Julie. Ça va, donc Julie, tu n'as rien entendu puisque tu n'as ni casque ni micro. Voilà. On a dit beaucoup de mal d'Oxfam Magasin du Monde.
Merci beaucoup. J'ai réécouté tout ça après sur Internet.
Parole quand même à toi qui fait partie des initiatrices du projet. Qu'est-ce qui a donné envie de se lancer là-dedans et qu'est-ce que tu en retires après 3 saisons?
Nous, on avait vachement envie aussi de se lancer dans un truc un peu nouveau parce qu'on faisait pas de radio avant. Donc, on est surtout présent dans les écoles avec les jeunes magasins du monde Oxfam. Et on avait envie de pouvoir proposer autre chose, en fait, peut-être d'attirer des jeunes vers les thématiques qu'on touche, mais à travers un côté artistique avec le podcast, par exemple. Et puis, on avait rencontré des super personnes comme toi, Thibaut, qui pouvaient nous aider là-dessus. Et donc, on s'est lancé là-dedans avec aussi, évidemment, il faut toujours un petit peu d'argent, donc avec des fonds européens. Après 3 ans, je pense, j'étais assez d'accord avec ce que disait Diego, parce que ça j'ai quand même entendu. Moi, j'ai rencontré à chaque fois des jeunes vraiment super chouettes qui débarquaient un peu, qui savaient pas forcément ce qu'on allait faire, qui embarquaient avec nous pour une semaine, matin, midi et soir. Et à chaque fois, en fait, nous aussi, on s'amuse vachement, on apprend aussi beaucoup parce qu'avant, on savait pas faire de radio non plus. C'est vraiment un plaisir de redécouvrir les sujets, de les transmettre, de rencontrer des personnes qui font vivre ces sujets-là aussi. Et on a évidemment super envie de repartir pour une nouvelle édition. Et évidemment, comme d'hab, comme ce que je disais au début, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, évidemment, si c'est possible, on le refera. Avec Comme un lundi, bien sûr.
Ça fait chaud au cœur. Oui, bah voilà. Moi, de mon côté, j'espère que vous avez appris en fait le langage sonore. C'est vraiment mon objectif, moi, en tant que co-animateur de cet atelier, c'est d'avoir conscience de tous les potentiels que le son peut permettre. Et je trouve que dans vos projets, on l'entend. Que le son, il permet la rencontre, et il permet aussi de raconter des histoires, d'évoquer des choses, d'évoquer des douleurs, d'évoquer des difficultés, d'évoquer l'ailleurs. Et voilà, je voudrais remercier François Phil, qui est à la technique de cette émission. François Phil, qui fait un travail formidable à Radio Esperanza. J'espère que tu as la reconnaissance de tout ça. J'espère que... voilà. Merci en tout cas de nous avoir accueillis si chaleureusement à toute l'équipe de Radio Esperanza. Merci à vous d'être venu jusqu'ici.
Merci.
Maintenant, le boulot, il est fait.
Ouais.
Passe à l'amusement. Passe au plaisir. Hein ? Voilà. Merci. C'était Le son qui dérange pour Radio Esperanza. Et on termine avec le choix musical de Diego, comme tu l'as dit, qui est donc Sugar on my tongue. Voilà. Merci tout le monde.
Merci.
Merci.
Merci. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat, eat. Tell your mama, tell them boy. Tell your daddy, tell them boy. Tell the bitches that you know what you heard about me. Tell your mama.
Radio Esperanza décolonise les ondes.
Radio Esperanza.
Décolonise les ondes.
Radio Esperanza.